Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Bonsoir, bienvenue, direction le Brésil pour le débat de ce soir avec des manifestations pro Dilma Rousseff organisées aujourd'hui dans 31 villes du pays. En tête du cortège de Brasilia, Lula, l'ancien président qui a d'ores et déjà prévenu, il manifestera pour défendre la démocratie, a-t-il expliqué. Des manifestations donc pour soutenir un pouvoir fragilisé par le scandale de corruption Petrobras, par le lâchage il y a quelques jours de l'allié centriste de la coalition et puis par cette procédure de destitution de la présidente qui semble se rapprocher. Brésil, Dilma Rousseff peut-elle éviter cette destitution? C'est le débat de ce soir. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. Luciana Araújo, vous êtes doctorante en sciences politiques à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine de l'Université Paris 3. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes également spécialiste du Brésil, comme notre second invité, Dominique Vidal. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de sociologie à l'Université Paris 7 Saint-Denis Diderot et vous êtes donc, je le disais tout à l'heure, vous aussi spécialiste du Brésil, évidemment. Alors Dominique Vidal, je voudrais commencer avec vous. Le 13 mars dernier, 3 millions de Brésiliens ont manifesté contre Dilma Rousseff. Alors est-ce qu'on peut imaginer que ce soir, lorsque les chiffres officiels de ces manifestations vont tomber, on découvrira qu'ils ont été aussi nombreux à manifester pour Dilma Rousseff.
C'est difficile de le dire. Ce qui est sûr, c'est que probablement les rassemblements qui sont organisés ce soir seront en nombre au moins aussi nombreux que lors de la manifestation du 18 mars qui avait suivi de quelques jours cette manifestation favorable à l'impeachment, puisque les opposants à l'impeachment se sont mobilisés depuis et comptent beaucoup sur la journée d'aujourd'hui.
Donc pour... impeachment, pour nos auditeurs, c'est donc la destitution. C'est le terme anglais, terme qu'on utilise au Brésil.
Ouais. La procédure complexe de ce qui aboutit, si elle va à son terme, à la destitution de la présidente.
Alors, vous dites qu'effectivement, il y a eu toute cette organisation pour ces cortèges et Lula, l'ancien président, a mis de sa personne pour organiser en lançant des appels, notamment sur les réseaux sociaux.
Alors, Lula met de sa personnalité, évidemment, pour mobiliser tout ce qui peut être mobilisé, mais Lula met surtout de sa personnalité pour essayer de sauver la peau de sa dauphine, puisque c'est lui qui avait été très largement à l'origine de son choix pour lui succéder, lui-même n'ayant pas pu briguer pour des raisons constitutionnelles un second mandat. Le rôle de Lula, c'est, comme on dit au Brésil, de trouver une nouvelle alliance ou de faire un accord avec ceux qui restent encore du côté du gouvernement, qui sont de moins en moins nombreux. Et l'un des espoirs de Dilma Rousseff pour éviter à ce que cette procédure d'impeachment aille à son terme, c'est que Lula, en plus des mobilisations de la rue, parvienne à convaincre ceux qui sont encore alliés et ceux qui pourraient le devenir de ne pas lâcher le gouvernement, puisqu'il faut les deux tiers des voix des députés pour que la procédure puisse continuer.
Alors on va venir évidemment à cette figure centrale qui est Lula, même si c'est Dilma Rousseff qui est visée par cette procédure. Mais d'abord cette question à vous, Luciana Araújo. Est-ce qu'on peut parler d'un Brésil coupé en deux depuis le début de cette crise ?
En fait, moi, j'aurais la tendance à essayer justement de déconstruire un peu ces catégories un peu figées entre est-ce que Lula, c'est un ange, est-ce que lui, il est un démon, ou est-ce qu'on est, d'un côté, on a des manifestants complètement aveugles pro-Dilma, pro-gouvernement, et d'autre côté, on a des manifestants complètement contre, anti.
Parce que c'est un peu la vision qu'on a hein, de loin d'un pays coupé en deux, très clivé.
Certes, il y en a beaucoup d'intolérance politique, je dirais, en ces moments, parce que aussi c'est quelque chose qui a été un peu alimenté par la presse, mais aussi par les plusieurs affaires de corruption qui ont vu jour il y a pas longtemps. Donc je dirais que.
Mais ce qui est particulier, c'est qu'on parle de ce pays coupé en deux, alors que finalement beaucoup de partis sont concernés, beaucoup de partis de la population sont concernés par ces affaires de corruption. C'est exactement. Pas la droite contre la gauche.
Oui, exactement. Et en plus, je dirais que je pense que les manifestations d'aujourd'hui elles vont être beaucoup plus importantes, d'où au fait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas forcément pro-gouvernement, qui vont sortir aussi dans la rue pour, et ça, je répète, bien évidemment, les mots de Lula, mais c'est pas juste des Lula, il y a des militants vraiment du PT qui étaient militants du PT,
des
partis des travailleurs, pardon, et qui aujourd'hui, sont critiques au parti des travailleurs, qui vont quand même sortir dans la rue en justement essayant de défendre ce qu'ils disent, c'est des anciens démocratiques qui, bon,
on a presque peur du chaos qui se dessine, c'est ça? Pour certains?
Oui, aussi, parce qu'on est un pays qui fait partie d'un continent qui a été très touché par les dernières dictatures militaires et qu'on a vu un peu, c'est pas la même chose, c'est d'autres contextes, mais on a vu aussi ces bouleversements un peu médiatiques et aussi juridiques qui a donné lieu justement au coup d'État en 64 et qui aujourd'hui, bah, tous ces gens qui vont sortir dans la propre démocratie ont peur justement qu'on soit dans des contextes qui se répètent en fait. Parce qu'en Amérique latine, on a toujours la peur d'un coup d'État. Cette fois-ci, bien sûr, c'est pas un coup d'État militaire, mais...
Et d'ailleurs, ce qui se répète aussi, c'est la procédure d'impeachment qui a déjà eu lieu au Brésil. Dominique Vidal, sur cette analyse d'un Brésil coupé en deux, alors peut-être caricaturé de l'extérieur, qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense qu'il y a deux camps en présence, mais qui sont loin de rassembler tous les Brésiliens. Au contraire, la grande majorité des Brésiliens, et notamment des couches populaires, sont très en retrait pour l'instant de ces mobilisations. Ce sont des mobilisations qui concernent essentiellement, mais pas uniquement, les couches moyennes et supérieures. Et ça s'organise autour de deux polarités, ceux qui sont favorables à la procédure d'impeachment et ceux qui considèrent que c'est une forme de coup d'État. Alors bien sûr, c'est pas un coup d'État au sens militaire, c'est plutôt une manœuvre politique permise par l'interprétation de la Constitution dans le sens le plus défavorable possible à l'actuelle présidente, puisqu'on sait bien que les fondements juridiques de la demande d'impeachment sont extrêmement légers, que ce qu'on lui reproche en réalité, c'est qu'on veut la faire partir. Donc la grande majorité de la population se tient à l'écart, ce qui n'empêche pas d'être consterné comme ceux qui participent par le spectacle désolant de la corruption qui
touche. Donc vous nous dites, tout le monde ne manifeste pas, mais quand même les sondages sont là pour montrer que Dilma Rousseff atteint un taux d'impopularité qui est quand même historique. Hein. Je crois que les dernières enquêtes montrent que seuls 10% des Brésiliens qui s'expriment, c'est peut-être là la nuance, sont satisfaits.
Elle est extrêmement impopulaire parce que le Brésil connaît une crise économique extrêmement sévère. Le pays est en récession pour la deuxième année consécutive et le chômage a considérablement augmenté après quasiment une décennie de très forte croissance.
Il a été multiplié par deux, en gros, en un an, 9%
exactement,
de la population
exactement.
Active.
Exactement. Et après une décennie de forte croissance qui a vu la condition de vie des Brésiliens s'améliorer de manière considérable, surtout pour les plus démunis d'entre eux. Donc elle est impopulaire parce que tout simplement elle est là dans une conjoncture qui est très défavorable pour le pays.
Alors sur cette question, ce qui explique l'impopularité de Dilma Rousseff, il y a ce scandale, mais il y a aussi la crise économique. Vous êtes d'accord,
oui,
Luciana Rougeau?
Je suis d'accord avec Dominique. Je pense aussi que Dilma, différemment de Lula, c'est pas une personne qui a un charisme. Et elle est plutôt dans une démarche, c'est un vrai technocrate, on peut dire comme ça. Et Lula a un rôle très important de négociateur, articulateur. Donc Lula, il avait cette charisme. C'est pas anodin qu'elle l'appelle justement en ce moment pour qu'il vienne justement l'aider en fait à récolter un peu de soutien, des pots de soutien qui le restent, parce que il est vrai qu'avec le départ de PMDB, le parti centriste qui on a une petite anecdote au Brésil, c'est les PMDB, il est toujours où il a la popularité et les gouvernements, il est à côté, donc c'est vraiment une partie de centre. Et voilà, là, donc ils sont plus là-bas, et là, ça reste vraiment il faut une personne qui soit plus articulateur pour pouvoir justement...
Alors vous nous disiez justement fédérateur, capable de faire de la politique, ce Lula, oui. Même si bon, son appel au gouvernement a aussi été très critiqué, puisque ça a été perçu par certains comme une manière de le faire échapper à la justice. Dominique Vidal, est-ce que vous pensez que Lula peut convaincre ce Parlement de ne pas atteindre les deux tiers, peut empêcher l'impeachment, si je peux me permettre cette formule?
Je pense qu'il faudra qu'il déploie beaucoup d'énergie pour y parvenir. C'est loin d'être gagné, mais ça n'est pas impossible. Je pense que parmi les possibilités qui pourraient permettre à Dilma Rousseff de conserver son mandat, il y a aussi la saisie de la Cour suprême, puisque le gouvernement entend faire valoir que la demande d'impeachment qui est formulée pour crime de responsabilité ne tient pas, puisque les faits que l'on lui reproche n'entrent pas dans le cadre défini par la procédure dans la Constitution. Mais ça n'est pas dit que cette saisie de la Cour suprême fonctionne, et il n'est pas dit que, en dépit de ses grands talents de négociateur, Lula parvienne à éviter la débandade de l'alliance, de ce qui reste encore de l'alliance de gouvernement.
Alors peut-être un mot de ce qu'on reproche à Dilma Rousseff. On lui reproche entre autres d'avoir été ministre de l'énergie, à ce titre d'avoir siégé au Conseil d'administration de Petrobras. Est-ce qu'elle pouvait ignorer le scandale, à votre avis, Dominique
Vidal ? Alors, il y a deux choses. Il y a ce qu'on reproche à Dilma Rousseff dans le cadre de la procédure d'impeachment. Ce sont des manipulations comptables, c'est-à-dire d'avoir porté au crédit du budget des dépenses qui étaient déjà engagées. Mais ça, semble-t-il, tous les gouvernants avant elle le faisaient, et pas simplement au Brésil.
Un geste usuel, finalement.
Après, il y a autre chose, mais qui pour l'instant n'entre pas dans la demande d'impeachment, c'est le scandale de la Petrobras, où là, effectivement, il y a une gigantesque affaire de corruption qui porte sur des centaines de millions de dollars, et où elle était présidente du conseil d'administration, et où elle dit qu'elle ne pouvait pas savoir, puisque bon, elle n'entrait pas dans les détails techniques, et que ce qui était à l'origine de ces affaires lui échappait complètement. Mais au jour d'aujourd'hui, ça n'entre pas dans la demande d'impeachment. Ce qui entre dans l'impeachment, c'est davantage la question du budget.
Luciana Araujo, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette capacité de Lula à empêcher l'impeachment ? Est-ce que la destitution se profile précisément, ou vous pensez qu'ils peuvent réussir à convaincre ?
Je suis un peu pessimiste à ce côté aussi. Je pense que ça va être vraiment très difficile pour que Lula arrive à convaincre. Après, ça c'est plutôt, on a les processus d'impeachment, il a une façade politique, donc très politique, mais une façade aussi juridique. Et je pense, à mon avis, ce qui va rentrer vraiment en compte, c'est est-ce que on peut considérer vraiment Dilma comme coupable d'un crime de responsabilité.
Moi, oui, parce que juste, j'explique, crime de responsabilité administrative, c'est le mot qui est dans la Constitution brésilienne, et on lui reproche d'être coupable de ce crime, ce qui justifierait la procédure d'impeachment. Et pour vous, le crime n'est pas forcément constitué, dit-on en langage juridique.
Non, là, il y a vraiment, il y a un débat juridique même. Il y a des avocats et des intellectuels du milieu du droit, d'un côté, qui essayent justement de justifier, de dire que ces crimes, les pédalages budgétaires, c'est ça qu'on appelle au Brésil, les pedaladas fiscais, c'est un crime de responsabilité, puisqu'on peut trouver d'autres crimes similaires qui font que ces crimes deviennent un crime de responsabilité, alors qu'il y a toute une autre démarche, d'autres débats juridiques qui disent que non, qu'il faut qu'on soit légaliste là, dans ces côtés, et que s'il n'est pas affiché comme crime de responsabilité, il peut pas être considéré comme une responsabilité. Sauf que ça, c'est pour moi l'enjeu juridique. Il y a aussi, que c'est très très difficile à savoir, à prévoir, c'est l'enjeu politique ça va venir d'ici les 14 avril, que c'est les jours où on va justement avoir les dossiers que la commission parlementaire va passer, et après
Alors sur ce point politique, justement, Dominique Vidal, est-ce que sur qui Dilma Rousseff et Lula peuvent aujourd'hui compter, et qui peuvent-ils essayer de convaincre?
Mais ils peuvent essayer de convaincre les partis qui sont encore membres de l'Alliance, qui sont des formations beaucoup plus petites que le Parti des Travailleurs, et essayer aussi de compter sur une division du PMDB, qui est ce parti centriste et surtout opportuniste avec lequel il fonctionnait depuis de nombreuses années maintenant.
Qui est lui-même empêtré dans le scandale.
Qui est complètement empêtré dans le scandale, et notamment au travers du président de la Chambre des députés, bon, qui lui est déjà poursuivi par la Cour suprême et qui fait l'objet lui-même d'une procédure judiciaire, il peut chercher à compter sur les divisions du PMDB, puisque, semble-t-il, tous les membres du PMDB, notamment les ministres PMDB, ne démissionnent pas, comme le leur a demandé leur parti. Donc, l'une des tâches de Lula va être d'essayer de convaincre finalement le PMDB que son intérêt, c'est de ne pas quitter le navire et qu'il y a encore intérêt à compter sur une alliance de gouvernement.
Et là, la figure de Lula est fondamentale ?
Oui, la figure de Lula est fondamentale parce que c'est quelqu'un qui, justement, a un grand sens de la négociation et de la, du compromis, parfois même de la compromission, mais qui peut être tout à fait capable de convaincre un certain nombre de députés que leur intérêt est bien compris et de finalement de rester dans l'alliance de gouvernement en attendant les prochaines élections qui sont prévu pour 2018.
Alors, vous nous disiez tout à l'heure, Luciana Araujo, que vous étiez assez pessimiste. On parle aujourd'hui de négociations voix par voix. C'est vraiment l'ambiance aujourd'hui au Brésil. Les parlementaires qui vont devoir voter, qui sont séduits par l'un, par l'autre camp, dragués plutôt.
Oui, il y a une séduction, sûrement. Je pense aussi que le difficile, c'est que il y en a énormément de députés aussi impliqués dans des grandes affaires de corruption. Par exemple, on a eu déjà l'objet de l'acceptation de la demande de destitution par Eduardo Cunha, qui est le président de la Chambre des députés. C'était une acceptation, une sorte de revanche politique, parce que on sait bien que il n'a qui a accepté cette demande parce que le PT, le Parti des Travailleurs, ne l'a pas donné les soutiens qu'il avait besoin suite justement à la transmission des comptes secrets en Suisse.
Donc il y a de la bisbille politique qui se
exactement. Donc il avait reçu plusieurs demandes de ces processus d'impeachment avant. Il en a accepté lorsque il a justement se rendu compte qu'il n'y avait plus de soutien de part des travailleurs. Donc, à mon avis, en ces moments, c'est assez difficile de voir comment on peut séduire des hommes politiques qui sont eux-mêmes déjà complètement noyés dans des affaires de corruption. Et comment est-ce qu'on peut justement promettre c'est compliqué.
Alors, Dominique Vidal, je voudrais revenir un tout petit peu à ce qu'on disait au début de l'émission. Cette opinion publique qui ne manifeste pas forcément pro ou contre, mais qui regarde, qu'est-ce qu'elle en pense, cette opinion publique aujourd'hui? Est-ce qu'elle a peur, justement, d'un autre coup d'État, d'une instabilité?
Non, je crois que la grande majorité des Brésiliens est surtout extrêmement inquiète par la conjoncture économique et par le chômage qui touche un grand nombre de familles dans un pays où la protection sociale est beaucoup moins développée qu'elle ne l'est en France, même s'il y a une petite assurance chômage. Donc je crois que ce qui inquiète les Brésiliens, c'est la situation économique. Concernant la politique, il y a bien longtemps que la grande majorité des Brésiliens ne se font pas beaucoup d'illusions sur leurs élus, qu'ils savent pour une grande majorité d'entre eux, et encore dire une grande majorité c'est un euphémisme, compromis dans des affaires de toutes sortes. Alors il y a eu évidemment cette période d'embellie économique qui a fait un petit peu oublier le fonctionnement politique, mais là c'est de nouveau le retour des affaires et sur fond surtout de crise économique et de désenchantement très fort.
C'est-à-dire que ce que traverse aujourd'hui la société brésilienne, c'est un petit peu la crise de fin d'une ère qui s'est ouverte en 2003 avec l'accession au pouvoir de Lula.
C'est la fin d'une ère qui a commencé 2 ans après l'accession de Lula au pouvoir, à partir du moment où la croissance économique est repartie à la hausse au Brésil et qui s'est terminée à la fin de l'année 2011, au bout de la première année du mandat de Dilma Rousseff, qui était tellement elle-même très populaire jusqu'à la fin de la première année. C'est-à-dire que le déclin de la popularité est concomitant de la dégradation de la situation économique.
Avec un chiffre, hein, peut-être, 2016, on prévoit à peu près moins 3% de décroissance pour le produit intérieur brut brésilien. Merci beaucoup à nos deux invités. C'est déjà la fin de cette émission. Dominique Vidal, professeur de sociologie à Paris 7. Denis Diderot, spécialiste du Brésil. Luciana Araujo, doctorante en sciences politiques à l'Institut des Hautes Études études de l'Amérique latine de l'Université Paris 3. Merci à Florence Ponce et à Hélène Avril. Tout de suite, un nouveau point sur l'actualité.